En matière d'introduction à la prédication, deux écoles s'affrontent généralement. La première école pense qu'il faut donner la priorité au texte. C'est lui la star du moment qui vient, pas besoin de blabla pour démarrer. La deuxième école pense qu'il faut introduire le texte biblique, avec une illustration, une pensée, une punchline. En gros, dans l'introduction, le prédicateur a 30 secondes pour convaincre son auditoire de l'écouter. L'avantage avec le texte de ce matin, c'est que les deux écoles peuvent être réconciliées. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent d'eux-mêmes en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Ce matin, la punchline est dans le texte. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, je précise que notre habitude dans l'Église, c'est de suivre le texte biblique. Nous avons commencé une série dans 1 Timothée 1 et nous en sommes donc logiquement à 1 Timothée 2. Et j'ai commencé par ce petit trait d'humour pour souligner immédiatement un des grands risques que nous courons ce matin, nous tromper de combat. Si ce que nous venons de lire est la parole de Dieu, alors elle participe premièrement, comme tous les autres passages, à une meilleure compréhension de l'Évangile, et pas à régler des comptes entre hommes et femmes. Il nous faudra donc ce matin être particulièrement attentif à ce que des détails, des argumentations ne nous éloignent pas du véritable enjeu de notre texte. Ça tombe bien parce que c'est exactement la préoccupation de Paul dans 1 Timothée. Souvenez-vous, il y a 2 semaines. Combattre le bon combat. Ne pas se perdre dans des combats secondaires. Combattre le bon combat de l'Évangile. Eh bien, ce matin, avant de démarrer notre texte, il est bon de nous rappeler que c'est le but de Paul dans la première épître à Timothée. Combattre ce bon, ce beau, ce vrai combat. Et je dois commencer par confesser que mon introduction a faussé les choses. Parce que si vous êtes attentif, je n'ai lu qu'un bout du passage de ce matin. Nous en étions au début du chapitre 2 et il nous faut donc lire l'entier de ce chapitre pour bien mesurer quelle est la nature du combat dans laquelle Paul veut nous entraîner, nous encourager. Alors reprenons les choses par le bon bout et lisons 2 Timothée. Les versets 1 à 15, cette fois-ci, avec cette exhortation de veiller sur nos attitudes, à la fois en recevant ce texte, mais à la fois parce que c'est ce que Paul recherche dans le texte. On lira en 2 parties, on va déjà lire les versets 1 à 8, et on lira la seconde partie tout à l'heure. Je recommande donc, en tout premier lieu, que l'on s'adresse à Dieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Première pause dans la lecture, et vous avez reconnu le verset qui a introduit notre lecture de tout à l'heure. Alors, ce qu'on repère à cette première lecture, c'est la place, je pense, de la prière. Alors que nous nous demandons, dans 1 Timothée, comment combattre le bon combat, la réponse semble assez simple. Prends ta place dans le combat de la prière. Et vous connaissez généralement le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens, ça n'est pas de savoir qu'il faut prier. Le problème des chrétiens, c'est de savoir qu'il faut prier. Oui, parce que si en fait je ne fais pas ce que je sais, c'est comme si je ne le savais pas. C'est comme si j'étais ce fou qui avait bâti sa maison sur le sable, pour ceux qui étaient avec moi à The Chosen vendredi soir. Si je sais qu'il faut prier et que je ne prie pas, c'est comme si je ne savais pas qu'il fallait prier. Alors on ne s'invente pas une vie de prière du jour au lendemain. Malgré quelques progrès observés depuis 27 ans, je dois confesser que ma vie de prière reste un chantier permanent. Il y a des hauts, il y a des bas, des besoins de la réformer, de la réveiller. C'est là où ne pas être seul dans la foi est un bon garde-fou. L'Église joue particulièrement un rôle de garde-fou, d'électrochoc dans ma vie de prière. Cette semaine, on a eu l'occasion de prendre part à une semaine de prière grâce aux méditations et sujets proposés par le CNEF. Mercredi dernier, on a eu une rencontre inter-église, une centaine de personnes présentes au Val d'Europe pour prier pour la Seine-et-Marne. Pour être honnête, on n'était pas très nombreux de Farmoutiers. Je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter. Je vous laisserai en tirer les conclusions. Mais de toutes les réflexions qu'on va mener ce matin, c'est peut-être la plus basique, mais en fait la plus importante pour nous. Peut-être celle que Dieu veut que vous entendiez particulièrement. Est-ce que je suis engagé dans le combat de la prière ? Alors si jamais en m'entendant vous dites, bah oui, mais c'est trop tard maintenant Nicolas, t'es gentil, c'était la semaine dernière, la semaine de prière. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Les méditations sont toujours disponibles en ligne. Et je m'engage à les mettre dans les annonces que vous ne manquerez pas de lire cette semaine. Et autre bonne nouvelle, une rencontre inter-église a lieu ce mercredi, à Coulommiers, session de rattrapage. Il y en a même une à Hautefeuille, mardi soir. Vous en aurez 2 si jamais vous ne pouvez pas venir mercredi. Frères et sœurs, combattre le bon combat de la foi ne se fera pas sans mener le combat dans la prière. Mais regardez de plus près, il semble que le but visé par Paul n'est pas tout à fait d'encourager l'église d'Éphèse, hein, c'est l'église où était Timothée, à prier. Il semble qu'il veuille plutôt cultiver une attitude paisible envers les autorités de ce monde. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et de remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Si Paul fait cette demande à Timothée, c'est probablement que ça n'était pas une évidence. Et on le comprend bien. Les grands de ce monde, à l'époque de Paul comme aujourd'hui, prennent rarement des décisions qui honorent Dieu, prennent rarement des décisions qui facilitent la vie de ceux qui suivent Dieu. Dès lors, on pourrait avoir l'impression d'être dans un combat. On parle du bon combat de la foi, n'est-ce pas ? Et c'est comme si Paul nous disait « Ne nous trompons pas de combat ». Il l'avait dit d'une autre manière dans l'Épître aux Romains. Celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. En 1 Timothée, Paul précise que le bon combat, justement, c'est de prier pour elle. Et il ajoute « afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix ». Une vie à l'abri de toute violence et dans la paix. Et notons la raison pour laquelle il fait cette demande. Ce fameux verset qu'on cite souvent, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela signifie que face à la guerre en Ukraine, en Palestine, en Iran, au Nigeria, nous allons certes prier pour que nos frères et sœurs puissent mener une vie à l'abri de la violence. Cela signifie que face à l'injustice sociale en France, nous allons certes prier pour avoir le meilleur gouvernement possible. Mais rappelons-nous que Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit les conditions qui nous permettent de vivre une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Cela veut dire que pour combattre le bon combat, nous devons prier pour les autorités, même quand elles prennent de mauvaises décisions, ou surtout quand elles prennent de mauvaises décisions. Et si ces mauvaises décisions conduisent à la crise politique, voyons-le comme une occasion pour que le message d'espérance porté par l'Église soit encore plus audible. Si elles conduisent à l'instabilité économique, voyons-le comme une occasion pour l'Église de prendre part dans la solidarité avec les plus démunis. Si cela conduit à la persécution, ce sera une occasion pour l'Église pour démontrer sa fidélité au message de l'Évangile. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur qui a offert sa vie en rançon pour tous. Paul veut équiper Timothée pour combattre le bon combat. La prière a une place de choix. En priant pour les autorités, l'Église nourrit une juste attitude vis-à-vis d'elle. C'est comme ça qu'elle développe un esprit non de plainte, mais de reconnaissance. C'est comme ça qu'elle confesse, qu'elle reconnaît que Dieu est le Dieu grand que nous avons chanté dans cette première partie, qu'il est souverain. C'est comme ça que nous verrons comment notre mission, notre espérance surpasse les aléas de ce monde. Et donc, après avoir développé ce premier point qui a toute sa place, Paul en arrive à une deuxième recommandation. Lisons à nouveau ces versets. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Elle a désobéi au commandement de Dieu, mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte, en gardant en tout le sens de la mesure. Comme Paul avait donc commencé par appuyer sur la prière de l'Église pour les autorités, cette fois-ci, c'est la prière des femmes qui va servir de porte d'entrée à la deuxième recommandation. Le « de même » joue un rôle de connecteur entre nos deux parties. Je veux que les femmes agissent de même. Peut-être que 2000 ans après, cette mention n'a probablement pas autant retenu votre attention que la suite. Pourtant, on a là une association homme-femme magnifique. Si la prière occupe une place de choix dans le combat de l'Église, les femmes sont invitées d'eux-mêmes à prendre place dans ce combat. Et pour le coup, je crois qu'elles ne sont pas en reste. Les femmes sont souvent les premières à retrousser leurs manches dans la prière. Elles ont probablement un esprit de reconnaissance plus développé peut-être un peu moins de testostérone, qui leur permet plus facilement que les hommes de voir qu'on est bien incapable de changer les choses par nos propres forces. Pensez à la culture cinématographique évangélique. Je fais écho à ce film, War Room. C'est une fiction, mais probablement ce n'est pas un hasard que ce soit la femme qui soit la figure du combat dans la prière. Si vous ne connaissez pas ce film, l'héroïne a investi une pièce de sa maison pour en faire son état-major de combat pour prier. Prier pour son mari. Elle a compris qu'elle ne changerait pas son mari. Le seul qui puisse le changer, c'est Dieu lui-même. Bon, vous me direz, ça c'est de la bonne fiction évangélique américaine qui n'échappe pas aux stéréotypes de genre. Mais quand même, on aurait du mal à inverser les rôles dans le film. Et si je ne vous ai pas convaincu, regardons du côté de l'église de Farmoutier. Maman en prière, ça vous dit quelque chose ? C'est sans surprise qu'on va retrouver les femmes sur la brèche pour prier. Un groupe de mamans qui a compris que nos familles n'échapperaient pas aux disputes, aux divisions, aux attraits du monde si elles ne sont pas abondamment portées dans la prière. Et puis comment ne pas remarquer que depuis 3 ans, presque tous les dimanches, un binôme de femmes se réunissent avant le culte pour prier pour le monde. Je rappelle que ce groupe est ouvert aux hommes, au cas où, pas comme maman en prière. Mais bizarrement, il n'y en a pas. Alors je ne cite que 2 exemples visibles. Il faudrait ajouter toutes les prières de nos sœurs qui se font dans le secret de leur war room. Mesdames, merci d'être un modèle de combat dans la prière. Un modèle inspirant pour nos églises. La prière est la porte d'entrée de ce que Paul veut ensuite apporter. Alors je vous propose de mettre de côté la question des apparences, pour y passer un certain temps, mais je ne voudrais pas donner l'impression de me défiler sur le sujet du texte sur lequel il faut passer un peu de temps, et remettons à nouveau devant nous ces fameux versets. Allez, je vais vous économiser de les relire à nouveau, mais c'est bien cela que nous voulons commenter. Alors bien sûr, en lisant ces versets au XXIe siècle, il y a un sursaut inévitable. J'imagine, car je ne peux qu'imaginer, s'allumer les warnings d'une femme victime de comportements sexistes, d'abus, et sans aller jusque-là, de machisme ordinaire. Ce propos résonne forcément comme venu d'un autre temps. Et le réflexe, c'est de rejeter cela. Et je crois qu'il nous faut entendre la souffrance, il nous faut entendre les parcours tourmentés, il nous faut dénoncer les abus, ça existe. Mais comme nous l'avons dit au début, il y a risque de se tromper de combat. Il y a risque de rater la magnifique vision que l'Évangile veut nous donner. Car ça n'est pas l'abus entre hommes et femmes que traite ce texte. Alors en quoi ce verset peut-il nourrir le bon combat de la foi que nous voulons mener avec un Timothée ? Alors il me semble intéressant de remarquer que déjà tout le mouvement de texte, c'est de montrer que le bon combat de la foi passe par une attitude paisible vis-à-vis de l'autorité. Pas que pour les hommes, pour l'Église dans son ensemble. C'est ce qui était dans la première partie du texte. Prier pour vivre en paix, sphère relationnelle, le monde extérieur, autorité, oui, les autorités de ce monde. Mais en fait, parce que Dieu est souverain sur ses autorités. Derrière les autorités, il a un plan, que tous les hommes soient sauvés. Versets 8 à 15, développer des relations de paix entre hommes et femmes au sein de l'Église. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme complémentaires. Vision de la véritable autorité qui est derrière ce passage. Ce que Paul cherche à faire, c'est à encourager aussi bien les hommes que les femmes à vivre une attitude paisible vis-à-vis de l'autorité. Voilà le bon combat de ce texte. Quelle attitude je cultive vis-à-vis de l'autorité? Mais bien sûr, on ne va pas s'en sortir par cette pirouette, diront certains. Il faut aller plus loin. Ce n'est pas qu'une pirouette, hein, c'est vraiment le sens du texte. Mais il faut aller plus loin. S'assurer que ce verset, qui fait tant débat, n'est peut-être pas à prendre uniquement dans le contexte dans lequel il a été donné, l'idée que ce serait une situation spécifique à l'église d'Éphèse qui amènerait Paul à dire cela. C'est une position que certains confrères pasteurs très estimés ont. Je vais essayer de montrer pourquoi il me semble que c'est plus compliqué que ça. On dit souvent qu'un verset sorti de son contexte est prétexte, donc on voudrait éviter ça. Et donc la question, c'est de se demander, est-ce que cette recommandation sur la relation, et je vais commencer par la relation d'autorité, séparer la question de l'autorité et de l'enseignement, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, est-ce que cette relation d'autorité homme-femme est contextuelle à l'église d'Éphèse? Alors tout d'abord, j'espère avoir montré que ce n'est pas juste une petite recommandation comme ça au passage de Paul en se disant « Tiens, si je pouvais en mettre un petit coup là ». C'est vraiment un développement d'ensemble sur la question d'autorité. Donc voilà, ça montre déjà que Paul a vraiment une intention par rapport à l'autorité dans ce texte. Ensuite, lorsque on lit A dans la parole de Dieu et qu'on dit qu'il faut comprendre B, vous comprendrez qu'il faut une certaine prudence. Il faut s'assurer qu'on a certains garde-fous. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que ce soit la société qui nous amène à changer la compréhension d'un passage. Et un des garde-fous essentiels, quand on fait intervenir la question du contexte, pour changer de manière substantielle notre compréhension, c'est qu'il faut que l'argument décisif soit dans la Bible. C'est la seule manière de garder la Bible comme véritable autorité sur nos vies, et non pas ce que nous, on aurait envie que la Bible dise. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'argument décisif dans la Bible. J'aurais même envie plutôt de souligner le contraire. La lettre aux Corinthiens, par exemple, va généraliser cette question de relation d'autorité entre hommes et femmes en disant que des recommandations similaires s'appliquent à toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est en 1 Corinthiens 14. Il faudrait prendre du temps pour bien détailler ce passage, donc vous pouvez le relire chez vous. Ça ne va donc pas trop dans le sens d'une situation propre à l'église d'Éphèse. Et puis, il y a l'argument qui est dans le texte lui-même, en 1 Timothée. Un argument d'ordre créationnel. Dans les versets 13 à 15, Paul fait référence, en effet, à la chute et au problème qu'a posé l'inversion de rôle entre Adam et Ève. C'est à Adam qu'il avait été confié le commandement. C'est Ève qui a initié la désobéissance. Alors attention, en Genèse 3, il est clair que Adam et Ève sont tout autant fautifs. Ève a initié, Adam n'a pas pris l'autorité qui lui revenait de dire « Mais ça n'est pas ce que la parole de Dieu dit. » Et c'est justement ce que Paul souligne ici. Le renversement de rôle a créé ou a engendré cette désobéissance à Dieu. L'enjeu de l'évangile ici, c'est donc que par une relation apaisée, femme-homme, l'Église devrait refléter cette autorité selon le cœur de Dieu que l'on perçoit dès la création. Alors bien sûr, il faut s'empresser de préciser que l'autorité biblique n'a rien à voir avec les images d'autorité que nous renvoie la société. Et certains parmi nous ont déjà vécu un prélude à ce qu'on dit ce matin, dimanche dernier, avec Sylvain, en méditant les premiers chapitres de la Genèse. Alors, je ne vais pas pouvoir reprendre tout ce qui a été dit là en une heure, mais simplement de rappeler que l'égalité homme-femme n'est en rien amoindri par cette différence de rôle dans le vécu de l'autorité dans l'Église. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Les deux participent au fait de ce que l'humanité continue. Les deux sont sauvés par le même salut en Jésus-Christ. Et les deux sont appelés à régner avec Jésus-Christ éternellement. Quand on parle autorité, le modèle de référence, ça n'est pas le monde, c'est bien sûr Jésus. Et je crois que toute notre première partie a pointé justement cette grande différence entre la vision du monde et la vision biblique de l'autorité. Un autre verset peut encore nourrir cette vision, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, vision du monde, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon. Et c'est intéressant parce que Jésus-Christ est à la fois ce modèle d'autorité, mais aussi le modèle de soumission qui est demandé. Car ce modèle n'est pas un modèle d'écrasement, n'est pas un modèle de perte d'identité, n'est pas un modèle de perte d'initiative. Jésus-Christ se soumet joyeusement, délibérément au Père. La soumission biblique, c'est l'attitude délibérée de celui qui se place volontairement sous la conduite d'un autre parce qu'il reconnaît que c'est ce que Dieu a prévu et que c'est donc ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est pourquoi un verset comme 1 Timothée 2:12, parmi d'autres, nous amène à l'église de Pharmoutier à reconnaître que la conduite de l'église est confiée à certains hommes, ce qu'on appelle les anciens. Mais ça n'est pas une prise de pouvoir des hommes sur les femmes. En fait, l'autorité est une collaboration, chacun devant jouer son rôle. Parce que pour conduire, il faut aussi se laisser conduire. Il ne faudrait donc surtout pas que le modèle d'autorité de l'église de Pharmoutier soit un petit groupe d'anciens qui s'enferme dans une salle, qui prend des décisions et qui dit à l'église « Voilà comment ça va se passer !» Et j'espère que ce n'est pas comme ça que l'on vit la question de l'autorité à l'église de Pharmoutier. J'espère que les femmes qui font partie du conseil d'église, que les femmes qui sont responsables de ministère, que les femmes qui sont membres de cette assemblée ne le ressentent pas du tout comme cela. Et si ce n'est pas le cas, eh bien il faut qu'on progresse. À Pharmoutier, nous reconnaissons la nécessité d'associer hommes et femmes pour conduire l'Église, mais avec des rôles dissociés ou différents. La pratique de l'autorité, c'est toujours une collaboration entre ceux qui conduisent et ceux qui se laissent conduire. On y reviendra dans la conclusion, mais avant cela, il faut aborder l'autre élément de ce verset, la question de l'enseignement, parce que la situation, elle, est un peu différente. Deuxième question, à laquelle on ne veut pas échapper en lisant ce passage, qu'en est-il de l'enseignement par des femmes dans l'Église ? Cette fois-ci, la mise en cohérence de 1 Timothée 2 avec le reste de l'enseignement biblique amène à plusieurs remarques. Je ne vais pas pouvoir être exhaustif, je vais juste citer quelques pistes et tout ça demanderait à être approfondi. Mais on rencontre dans le Nouveau Testament au moins l'exemple d'une femme qui avec son mari enseigne. C'est le cas de Priscille, qui avec son mari Aquilas enseigne en privé Apollos, un acteur important du premier siècle de notre ère dans l'Église. Et puis, toujours cette fameuse épître aux Corinthiens que j'ai citée tout à l'heure, dans 1 Corinthiens, Paul donne des recommandations aux femmes qui prophétisent pendant le culte. Pour Paul, hommes et femmes sont appelés à prier, il le mentionne aussi dans le passage, et à prophétiser. Ça implique une prise de parole publique. Ça implique une certaine dose d'enseignement. Il faudrait prendre plus de temps pour analyser l'ensemble des données bibliques. Mais on peut avancer une première conclusion. le verset de 1 Timothée est moins exclusif qu'il n'y paraît. La Bible nous donne l'autorisation de ne pas considérer les limites données à l'enseignement des femmes dans l'Église dans un sens trop strict. Et en fait, il me semble qu'on le comprend assez bien. Parce que la question de l'autorité, elle se joue dans le domaine des relations. Et l'Évangile, il a des choses à nous dire dans la manière dont on va vivre nos relations. L'enseignement, dans un premier temps, on le reçoit plus comme une activité. Il y a le moment d'enseignement, ici, chez les enfants, et dans tout un tas d'autres domaines de la vie. Et le constat, c'est que l'Évangile ne codifie pas la manière de vivre les activités qui servent à conduire le culte. Par contre, il ne faut pas nier. Il y a bien une relation d'autorité qui se joue dans l'enseignement, entre l'enseignant et l'enseigné. Tout cela nous amène, me semble-t-il, à conclure que la recommandation de Paul en 1 Timothée concerne l'enseignement quand il est un canal de conduite de l'Église, un canal d'autorité. Ce que Paul ne permet pas ici, c'est que la femme enseigne dans le sens de l'enseignement qui participe formellement, directement, à la conduite de l'Église. Et là, il faudra bien reconnaître qu'il va y avoir une certaine dose de subjectivité, une certaine dose de culturel, une certaine dose d'arbitraire. Qu'est-ce qu'un enseignement d'autorité? Qu'est-ce que ça n'est pas? Est-ce que c'est le dimanche matin? Est-ce que c'est dès qu'on monte sur cette estrade? Est-ce que quand c'est à partir du moment où on a introduit que maintenant c'est la prédication? Il y a certes des principes qu'on retrouve dans toute autorité, mais l'autorité a aussi une dimension culturelle et locale, propre à chaque groupe. Et il revient donc à l'Église locale et à ses responsables, de discerner en partie de quelle manière l'enseignement va participer à la conduite de l'Église. Et c'est donc assez normal que toutes les Églises n'aient pas la même réponse. Il y a une dimension locale à prendre en compte à chaque fois. Alors si je prends l'exemple de Farmoutier, actuellement, on peut penser par exemple à nos temps de présidence. C'est quand même difficile de nier que tout à l'heure, dans la première partie, il y avait une certaine dose d'enseignement. On a ouvert la Bible, on a regardé ce qu'elle disait. Mais le but de cette partie, c'est de nous conduire à l'adoration, à la louange. On pourrait dire, en quelque sorte, que c'est le moment prophétique dans l'église de Farmoutier. Par contre, le temps que nous vivons maintenant, lui, rentre plus dans la case de l'enseignement qui consiste à conduire l'Église dans l'idée de bien comprendre ce que veut nous dire 1 Timothée. Et avant cela, le livre des psaumes, et avant cela, 2 Corinthiens. Ce moment participe plus directement à la conduite de l'Église. C'est pour ça que l'on encourage hommes et femmes à s'impliquer dans le ministère de la présidence de culte. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans notre manière de le vivre, la prédication textuelle suivie et plutôt conduite par les anciens de l'Église. C'est le modèle actuel, avec toutes les réflexions que j'ai essayé de poser ce matin. Le but, ce n'est pas le statu quo, c'est de toujours rester en réflexion sur ces sujets pour combattre le bon combat de l'Évangile par rapport à toutes ces questions. Et c'est pourquoi on a décidé, 13 ans après sa première édition, de retravailler notre règlement intérieur. Pas pour faire la révolution, mais pour s'assurer que c'est bien toujours l'Évangile qui nous conduit à vivre les pratiques que nous avons aujourd'hui. Pour s'assurer que, en tant qu'Église, on comprend bien ce qu'on est en train de vivre. Pas que le contexte doit nous amener à changer, mais que nous, nous cherchions à appliquer l'Évangile a un contexte qui ne cesse de changer. C'est pas la même chose, dans un cas c'est le contexte qui décide, dans l'autre cas c'est nous qui cherchons, en recevant ce que dit la parole, à l'appliquer au contexte. C'est ainsi que nous combattrons le bon combat. de la foi. Alors, concluons. J'espère qu'après notre temps de ce matin, vous serez un peu moins allergique à 1 Timothée 2. Le but de ce texte n'est pas de restreindre, n'est pas d'interdire, mais de vivre une autorité selon le cœur de Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Hommes et femmes, nous sommes impliqués à prier pour les autorités de ce monde afin de garder les yeux fixés sur notre mission. Que tous puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Hommes et femmes, nous sommes appelés à vivre au sein de l'Église l'autorité selon le cœur de Dieu afin de refléter la complémentarité voulue par Dieu. Ce message est, à mon avis, d'autant plus important pour nos sociétés aujourd'hui, où les inégalités, les incompréhensions opposent souvent hommes et femmes. En méditant l'Évangile, et j'espère que vous m'avez suivi ce matin, nous ne croyons pas que c'est l'uniformisation des rôles qui va amener cette égalité après laquelle notre société aspire tant. Nous pensons qu'en reflétant la complémentarité voulue par Dieu, nous apportons une parole de guérison et de réconciliation dont nos sociétés ont urgemment besoin. Que le Seigneur nous aide tous pour accomplir cette mission. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous pouvons la déformer. Et montre-nous encore ce matin où nous pourrions avoir besoin de progresser dans notre compréhension de ta parole. Mais Seigneur, je veux en tout cas reconnaître que la vision que tu nous donnes de ta création, de la manière dont tu as voulu organiser les choses est magnifique. Et je veux vraiment, pour ma part, apprendre à le vivre. Seigneur, montre-nous en tant qu'Église comment progresser encore dans ce que nous avons médité ce matin. Montre-nous comment aller plus loin dans la prière pour les autorités. C'est pas quelque chose que nous faisons très régulièrement ici. Montre-nous comment aller plus loin dans la manière de vivre une complémentarité apaisée. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui bâtit son Église et nous pouvons pleinement te faire confiance pour ce que tu veux encore faire dans notre assemblée. En ton nom, Seigneur. Amen. Alors, j'ai hésité.